Chapitre 17. Une arrivée. Dès la fin du premier mois, Moiraine avait dû admettre que la quête des prophéties, l'un dans l'autre, était une routine ennuyeuse comme la pluie. Après tout un trimestre de ce régime, la jeune femme n'était plus que frustration, lassitude et fatigue. Les trois serments continuaient à lui coller à la peau, littéralement, et son postérieur torturé, à force de chevaucher, n'arrangeait rien à son infortune. Alors que les bourrasques s'attaquaient aux volets fermés, Moiraine se tortilla sur sa chaise en bois beaucoup trop dure. Pour cacher son malaise et son impatience, elle but une gorgée d'infusion, sans miel bien entendu, le contraire aurait été trop beau. Au camp d'or, le confort dans une maison en deuil était limité au minimum. À dire vrai, la voyageuse n'aurait pas été étonnée de voir du givre sur les meubles ou sur l'horloge en métal accrochée au-dessus de la cheminée.
« C'était si étrange, madame !»
soupira Jorin Najima pour la dixième fois. Elle serrait ses filles contre elle, comme si elle avait l'intention de ne plus jamais les lâcher. Bizarrement, les deux adolescentes semblaient réconfortées par cette étreinte presque sauvage. Âgées de 13 ou 14 ans, Collard et Ezel arboraient les mêmes longs cheveux noirs que leur mère, et les mêmes yeux bleus, à cet instant voilés par un insondable chagrin. Jorin affichait le même désespoir. Paraissant flotter dans sa robe grise des plus ordinaires, elle avait quelque chose de spectral.
« Dans l'étable, Joseph était toujours très prudent avec les lanternes, »
gémit-elle.
« Et il n'autorisait aucune flamme non protégée. Les garçons avaient dû amener le petit Jerry de voir leur père au travail, et ils ont tous été coincés à l'intérieur. Comment l'étable a-t-elle pu brûler si vite? C'est insensé. »
« Rien n'est jamais absurde, maîtresse Najima, »
assura Moiraine, en posant sa tasse au coin de la petite table. Elle comprenait le chagrin de son interlocutrice, mais commençait à trouver qu'elle se répétait un peu trop.
Nous ne distinguons pas toujours les raisons d'un drame. Pourtant, savoir qu'il y en a est réconfortant. La roue tisse comme elle l'entend, et nos vies ne sont que des fils. Mais la trame reste l'œuvre de la lumière.
S'entendant parler, Moiraine dut réprimer une grimace. Ses propos exigeaient une dignité et une gravité dont sa jeunesse la privait cruellement. Un moment, elle regretta de ne pas avoir le visage sans âge des autres sœurs. Mais un instant seulement, car il ne fallait surtout pas qu'on la prenne pour une Aes Sedai. Aucune sœur n'était venue voir Jorin pour le moment, mais ça arriverait tôt ou tard.
« C'est bien vrai, Dame Alice, »
fit poliment Jorin, même si elle n'en pensait pas un mot. À ses yeux, cette étrangère, noble ou pas, était une enfant gâtée stupide. La petite pierre précieuse du caissiera sur le front de Moiraine signalait son rang au moins autant que la robe d'équitation vert foncé de Tamoré. Face à une noble, les gens répondaient plus volontiers à certaines questions, et ils ne se formalisaient pas des comportements plus ou moins saugrenus. Si on l'en croyait, Moiraine rendait visite aux endeuillés, afin d'honorer la mémoire de son défunt souverain. Peu de gens pleuraient la manne aux Caïriennes, certes, mais ça ne lui ôtait en rien le droit d'être affligé, pas vrai? Selon les dernières nouvelles qu'elle avait glanées un mois plus tôt, 4 maisons se disputaient le trône. Les escarmouches se succédaient, certaines pas si éloignées que ça d'authentiques batailles. Par la lumière, combien de gens périraient avant qu'on en ait terminé? Si elle était entrée dans le jeu du hall de la tour, il y aurait quand même eu des victimes, car la succession aux Caïriennes était une affaire de chantage, de rapt et de meurtre. Elle n'avait donc aucune raison de se sentir coupable d'avoir fui. De toute façon, elle serait tôt ou tard punie de s'être ainsi dérobée à son devoir, et connaissant Cyrine, elle ne devait sûrement pas être clémente avec les sœurs insoumises. Moiraine avait-elle laissé transparaître la colère qui bouillait en elle dès qu'elle pensait à son pays? Quoi qu'il en fût, Najima crut qu'elle était allée trop loin et qu'elle avait agacé son interlocutrice. Personne n'ayant envie de se mettre une noble dame à dos, même étrangère, elle crut bon de s'expliquer.
« Dame Alice, je dis ça parce que Joseph était si chanceux. Tout le monde en parlait. Quand Joseph Najima tombe dans un trou, disait-on, on peut être sûr qu'il y a des opales au fond. Lorsqu'il a répondu à l'appel de Dame Kareil, partant combattre les Aiel, je me suis inquiété. Mais il n'a pas récolté une égratignure. Et quand la fièvre fait des ravages dans le camp, toute la famille est passée au travers. Sans rien faire de particulier, Joseph a été remarqué par Dame Kareil. Alors, il a vraiment semblé que la lumière brillait sur nous. Jirid est né en bonne santé, et la guerre s'est arrêtée, tout ça en quelques jours. Dès notre retour au pays, Dame Kareil a offert l'étable à Joseph, pour le récompenser de ses excellents états de service. Et puis,
Jurine retint ses larmes, peut-être parce qu'elle avait trop pleuré pour en avoir encore. Collard éclata en sanglots et sa mère la serra plus fort contre elle. Moiraine se leva. Si elle restait, elle aurait une nouvelle fois droit à toute l'histoire. Il n'y avait plus rien pour elle ici. Jurine se leva aussi. Pas très grande, elle dominait cependant la Essedaï d'une tête, et les gamines n'avaient aucun mal à croiser son regard. Se forçant à prendre son temps, Moiraine murmura de nouveau des condoléances à Jurine, puis, alors que les petites lui apportaient sa cape bordée de fourrure et ses gants, elle tenta de lui glisser dans la main une bourse en cuir. Une petite bourse. Au début, elle s'était montrée généreuse, même si toutes ses femmes attendaient la prime ou l'avaient déjà touchée. Mais à force, elle aurait bientôt besoin de dénicher une banque. Jurine refusa son présent, une réaction qui irrita Moiraine. Pourtant, elle comprenait qu'on puisse avoir sa fierté. De plus, Dame Careil n'avait certainement pas laissé la famille dans le besoin. Et la présence d'une horloge indiquait que les Najima n'avaient de toute façon jamais manqué de rien. En fait, l'irritation venait d'ailleurs. Moiraine avait hâte de s'en aller. Jurine avait perdu son mari et ses trois fils par une terrible matinée. Mais Jerid n'était pas né au bon endroit, avec un écart de 7 ou 8 lieues. Être soulagé alors qu'il était question de la mort d'un enfant avait quelque chose de méprisable. Pourtant, il en allait ainsi. Le petit disparu n'était pas le garçon que cherchait Moiraine. Une fois dehors, sous un ciel plombé, Aes Sedai resserra les pans de sa cape sur son torse. Toute personne qui aurait déambulé cape ouverte dans les rues de Kanloum se serait aussitôt singularisée. Enfin, toute personne étrangère, mis à part une Aes Sedai. De plus, ne pas souffrir du froid ne signifiait pas qu'on ne le sentait pas du tout. Comment ces gens pouvaient-ils appeler « nouveau printemps » cette saison glaciale? Vraiment, ils étaient bizarres. Mentalement, Moiraine tira un trait sur le nom de Jurine Najima. Dans le petit carnet, plusieurs noms étaient déjà barrés d'un véritable trait de plume. 5 mères de garçons nés au mauvais endroit ou au mauvais moment, plus 3 mères de petites filles. D'abord certaine qu'elle trouverait l'enfant, Moiraine n'en était plus convaincue du tout. Son carnet contenait des centaines de noms. À coup sûr, une des enquêtrices de Tamra découvrirait le garçon avant elle. Pourtant, elle n'avait aucune intention de renoncer. Avant qu'elle puisse retourner à Tarvalon en toute sécurité, des années risquaient de s'écouler, voire des décennies. Malgré le vent mordant qui les balayait, les rues sinueuses grouillaient de gens, de chariots et de charrettes. Partout, des colporteurs et des marchands ambulants vantaient de douteuses merveilles. Les conducteurs de chariots beuglaient et jouaient du fouet pour se frayer un chemin dans la cohue, les femmes passant plus près de toucher une cible humaine que les hommes. Ces professionnels réussissaient ainsi à avancer en ligne droite, ou presque. Pour Moiraine, au contraire, tout l'art consistait à slalomer entre les promeneurs, les vendeurs des rues, et toute une théorie de véhicules tractés par des chevaux ou des bœufs. Cela dit, elle n'était pas la seule étrangère à marcher dans ces rues bondées. Un tarabonnet à l'énorme moustache la bouscula en s'excusant à peine. Une altarienne au teint olivâtre la foudroya du regard pour une raison qu'elle était seule à connaître, puis un Ilianien d'une taille raisonnable, et fort beau avec son collier de barbe, lui sourit civilement. Superbe dans sa cape rayée, un beau noir de Théar la regarda de la tête aux pieds, puis retroussa ses lèvres, trahissant les pensées lascives qu'elle lui inspirait. Voyant qu'il approchait pour lui parler, Moiraine laissa le vent écarter assez les pans de sa cape pour qu'il voie les rayures, sur le devant de sa robe. Le type n'insista pas. Accoster une riche marchande était une chose, importuner une noble dame, en revanche. Tous les piétons n'étaient pas obligés de zigzaguer. Par 2 fois, Moiraine vit les Aes Sedai fendre la foule d'un pas décidé. S'écartant à la hâte, les gens qui les identifiaient criaient aux autres de les imiter. Du coup, on eût dit qu'une mer humaine s'ouvrait en 2, pour céder le passage aux sœurs. Moiraine ne les avait jamais rencontrées, elle en aurait mis sa main au feu. Elle garda cependant la tête baissée et marcha de l'autre côté de la rue, assez loin pour qu'elles aient du mal à sentir son aptitude à canaliser le pouvoir. Aurait-elle eu intérêt à porter une voilette? Quand une femme imposante la frôla, sans l'ombre d'une excuse, elle constata qu'on ne distinguait pas vraiment ses traits sous la gaze. Ainsi équipée, Sierine Vaillou en personne aurait pu la croiser sans la reconnaître. Une idée à la fois absurde et terrifiante. Moiraine était descendue à la Porte du Paradis, la meilleure auberge de Kanloum. Dans cet établissement en pierre grise de 3 étages, elle louait une petite chambre assez agréable. Les boutiques environnantes, des bijoutiers, des orfèvres, des maroquiniers et des tailleurs, prospéraient grâce aux seigneurs et aux dames du perchoir, qui se dressait juste derrière l'auberge. Si elle avait su qui y séjournait avant de payer sa chambre d'avance, Moiraine n'aurait sûrement pas choisi cet établissement. et même si tous les autres étaient complets, une grange aurait été préférable. Inspirant à fond, la jeune femme entra dans l'auberge. La chaleur des feux qui crépitaient dans quatre cheminées et les bonnes odeurs de cuisine ne suffirent pas à soulager sa tension. Si grande que fût la salle commune au plafond quadrillé de superbes poutres apparentes, toutes les tables étaient prises. Pour l'essentiel, la clientèle était composée de marchands d'assez bas niveau, il suffisait de voir leurs vêtements très ordinaires, qui négociaient à voix basse au-dessus de gobelets de vin qu'ils touchaient à peine. Quelques artisans prospères, en habits richement brodés, complétaient le tableau. Mais Moiraine ne leur accorda pas une once d'attention. Cinq sœurs, rien que ça, avaient choisi la porte du paradis comme fief provisoire. Et tout était bien entendu présente dans la salle commune que Moiraine traversait à grandes enjambées. Maître Elvin, l'aubergiste, se débrouillait toujours pour accueillir les Aes Sedai, même quand il devait forcer ses autres clients à partager des chambres. La lumière en soit remerciée, Moiraine n'avait jamais rencontré ces sœurs-là à la tour. Solitaires au point de ne pas s'adresser la parole entre elles, ces Aes Sedai restaient en permanence dans leur coin. Informés de leur identité, les clients qui n'auraient pas su les reconnaître d'eux-mêmes se gardaient bien de les déranger. Alors que les tables étaient prises d'assaut, celle des sœurs ne comptait jamais que deux convives au maximum, l'Aes Sedai et son champion. Immanquablement, un homme au regard dur et à l'air dangereux, si ordinaire que puisse être par ailleurs son physique. Une des deux sœurs assises seule à leur table appartenait à l'âge à rouge. Moiraine le savait pour l'avoir entendu dire par une Aes Sedai qui ne s'adressait pas à elle. Également assise seule, Fela Anna Bevein, une sœur marron aux cheveux blonds, vêtue d'une robe de laine ordinaire, portait son châle en permanence. Elle avait repéré Moiraine dès son arrivée. Toutes les sœurs avaient senti son potentiel lorsqu'elle les avait approchées. Glissant ses gants dans sa ceinture, sa cape pliée sur le bras, Moiraine se dirigea vers l'escalier de pierre au fond de la salle commune. Pas avec une hâte suspecte, mais sans traîner les pieds non plus, et en regardant droit devant elle. Les sœurs la suivirent des yeux, et elle eut l'impression que des doigts s'accrochaient à ses bras. Mais aucune ne l'interpella. Elle la prenait pour une naturelle, une de ces femmes qui réussissaient à apprendre seule à canaliser le pouvoir. Ce bienheureux malentendu était dû à une erreur de perception de Fela Anna, et il était étayé par la présence à l'auberge d'une authentique naturelle. À part les sœurs, personne ne soupçonnait la véritable identité de maîtresse à chair. Si la plupart des Aes Sedai détestaient les naturels, parce qu'elles privaient la Tour Blanche d'éventuelles recrues, elles se donnaient rarement la peine de leur compliquer la vie. Toujours vêtue de laine grise, une broche en grenat pour tout bijou, maîtresse à chair, marchande de son état, baissait les yeux chaque fois qu'une Aes Sedai la regardait. Mais les sœurs ne s'intéressaient absolument pas à elle, à cause de ses cheveux gris, bien entendu. Au moment où Moiraine allait s'engager dans l'escalier, une voix lança dans son dos.
« Eh bien, pour une surprise, voilà une surprise !»
Se retournant, Moiraine parvint à dissimuler son déplaisir, tandis qu'elle se fendait du genre de révérence dont une noble mineure pouvait gratifier une Aes Sedai. Deux Aes Sedai, en fait. Et à part la chair d'Amerline en personne, la fugitive n'aurait pas pu tomber plus mal. Les mèches blanches des longs cheveux de la Rel Tarsi, une beauté au teint cuivré, accentuaient encore son élégance et sa distinction. Durant son noviciat, puis lorsqu'elle était une acceptée, Moiraine avait suivi plusieurs cours dispensés par cette Aes Sedai. Une excellente formatrice, très douée pour poser à une élève la question qu'elle avait le moins envie d'entendre. L'autre sœur était tout simplement Méréane. Moiraine s'étonna de voir les deux femmes ensemble. Elle aurait juré qu'elle ne s'appréciait pas tant que ça. Aussi puissante que Méréane, la réelle méritait le même respect. Mais à l'extérieur de la tour, les deux sœurs n'avaient aucun droit d'interférer dans la mission qu'une de leurs collègues accomplissait. Cela posé, si elle disait un mot de trop ou de travers, les autres sœurs présentes dans l'auberge sauraient que Moiraine d'Amodred, déguisée, séjournait à Kanoum. Aussi sûrement que les noyaux de pêche étaient empoisonnés, la nouvelle finirait par tomber dans les mauvaises oreilles. Ainsi allait le monde. Tôt ou tard, Moiraine recevrait l'ordre de retourner à Tarvalon. Après avoir désobéi une première fois à la chair d'Amerline, récidiver ne serait pas judicieux. Sans nul doute, Cyrine enverrait des sœurs à ses trousses. La fugitive voulut prendre la parole, histoire d'éviter les dérives, mais quelqu'un d'autre la devança.
« Inutile d'essayer avec cette fille !»
lança Fela Anna, se tournant sur son banc. Seule à sa table, elle écrivait dans un carnet relié de cuir. Elle avait une petite tache d'encre au bout du nez.
« Elle n'a aucune envie d'étudier à la tour, et quand elle a une idée en tête, celle-là, entêtée et secrète comme pas deux. En principe, nous aurions dû savoir qu'il y avait une naturelle dans une maison noble de Kyrienne, même mineure. Mais cette tête de mule adore faire des cachotteries. »
Larelle et Méréane regardèrent Moiraine. La première fronça les sourcils, et la seconde réussit de justesse à ne pas sourire.
« C'est la vérité, Aes Sedai, »
dit Moiraine, soulagée qu'une tierce personne vienne l'aider à bâtir son scénario.
« Je n'ai aucune envie de m'enrôler parmi les novices, et je ne changerai plus d'avis. »
Fela Anna posa sur la fugitive un regard critique, mais elle continua à s'adresser aux deux sœurs.
« Elle affirme avoir 22 ans, mais il est déjà arrivé qu'on contourne la règle de l'âge maximal. Il suffit parfois qu'une fille prétende avoir 18 ans, et la voilà enrôlée, sauf quand le mensonge est trop flagrant. Mais dans le cas présent, personne ne... Nos règles ne sont pas faites pour être contournées, »
rappela sèchement Larelle.
« Je doute que cette fille nous mente sur son âge, »
ajouta Méréane.
« Elle ne veut pas du noviciat, Fela Anna. Fichons-lui la paix. »
Moiraine manqua de soupirer de soulagement. D'un rang suffisamment inférieur à celui des deux sœurs, pour accepter d'être ainsi remise à sa place, Fela Anna fit pourtant mine de se lever, afin de poursuivre la polémique. Mais quand son regard se posa sur l'escalier derrière Moiraine, elle commença par se pétrifier, puis se laissa lourdement retomber sur son siège. Baissant la tête, elle se concentra sur son carnet, comme s'il n'existait rien de plus important au monde. Tirant nerveusement sur leur châle, aux franges grises pour la première et bleues pour la seconde, Larelle et Méréane semblaient avoir une furieuse envie d'être ailleurs. Mais on eût dit que leurs pieds étaient soudain cloués au plancher.
« Ainsi, cette fille n'est pas tentée par le noviciat, »
dit une voix de femme dans le dos de Moiraine. Deux ans plus tôt, la jeune femme avait entendu cette voix, et elle n'oublierait jamais cette expérience. Pour l'heure, beaucoup de sœurs étaient plus puissantes qu'elle, mais aucune n'arrivait à la cheville de celle-là. D'instinct, Moiraine jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Brillant sous un chignon de cheveux gris tenu par des épingles à la tête en forme d'oiseau, d'étoile, de croissant de lune ou de poisson, des yeux noirs étudiaient de pied en cap la jeune Aes Sedai. Comme Larelle et Méréane, Katsuane portait son châle, mais le sien avait des franges vertes.
« À mon avis, petite, 10 ans en robe blanche te ferait le plus grand bien. »
Tout le monde pensait que Katsuane Melaidrine avait fini par mourir, au terme d'une retraite amplement méritée, jusqu'à ce qu'elle se remonte à la tour, au début de la guerre des Aiel. Depuis, pas mal de sœurs regrettaient qu'elle ne soit pas pour de bon dans la tombe. Katsuane était une légende, à savoir exactement le genre de personne qu'on n'avait aucune envie de voir en face de soi. La moitié des histoires la concernant était hautement improbable. Les autres allaient tout simplement au-delà de l'impossible, même quand il existait des preuves de leur véracité. Un ancien roi du Tarabone, racontait-on, avait disparu de son palais dès qu'il était devenu notoire qu'il canalisait le pouvoir. Alors qu'on le conduisait à Tarvalon pour être apaisé, une armée entière s'était lancée à sa recherche pour le secourir. Plus tard, un roi de l'Arad Doman et une reine du Saldaea avaient été enlevés dans des conditions tout aussi mystérieuses. Quand Katsuane avait enfin consenti à les libérer, une guerre qu'on estimait inévitable avait littéralement fait long feu. Katsuane, affirmait-on, contournait les règles et les lois quand ça l'arrangeait, interprétait très librement les coutumes, et suivait son propre chemin, en y entraînant bien souvent les autres.
« Je remercie la noble Aes Sedai de ce conseil, »
commença Moiraine. Elle n'alla pas plus loin, se décomposant sous le regard implacable de Katsuane. Selon les rumeurs, des chairs d'Amirlin avaient presque courbé l'échine devant cette femme. On disait même qu'elle en avait attaqué une. Bien entendu, c'était des fadaises, parce qu'elle aurait été immédiatement condamnée à mort. Moiraine déglutit péniblement, tenta de continuer sa tirade, et s'avisa qu'elle n'en était pas capable. Katsuane descendit lentement les marches.
« Amenez-moi la fille !»
lança-t-elle à Méréane et à Larelle. Sans un regard en arrière, elle traversa la salle d'un pas léger, comme si elle glissait sur le sol. Les marchands et les artisans la suivirent des yeux, tout comme les champions. Les sœurs, elles, gardèrent la tête baissée. Méréane fit la moue, et Larelle soupira à pierre fendre. Elles exécutèrent pourtant l'ordre de Katsuane, entraînant Moiraine dans le sillage de la sœur verte. Au moins, songea la jeune Aes Sedai, Katsuane ne pouvait pas être une des enquêtrices de Tamra. Depuis sa visite au début de la guerre, on ne l'avait pas revue à la tour. La sœur verte entra dans un des salons privés de l'auberge. Des lampes d'argent accrochées au mur lambrissé, fournissant l'essentiel de la lumière, un bon feu crépitait cependant dans la cheminée de pierre. Non loin de la flambée, sur une petite table, reposaient une grande carafe et plusieurs gobelets d'argent. Méréane et Larelle choisirent chacune un confortable fauteuil. Lorsque Moiraine voulut les imiter, posant sa cape sur un siège, Katsuane désigna un point, devant les deux autres sœurs.
« Reste debout là, petite !»
lâcha-t-elle froidement. Instantanément furieuse, Moiraine eut bien du mal à ne pas serrer rageusement les poings. Ici, aucune sœur, même puissante comme Katsuane, n'avait le droit de la traiter ainsi. Elle obéit pourtant, désarmée par le regard inflexible de son aînée. Par quel miracle réussit-elle à ravaler des propos qu'elle aurait sans doute regrettés ensuite, elle n'aurait su le dire. Il y avait en Katsuane quelque chose de Siouan, mais en plus fort. Siouan était née pour diriger, Katsuane pour commander. Elle tourna lentement autour des trois sœurs, une fois, deux fois. Merehan parut troublée, et Larelle fit mine de poser une question, mais elle aussi se ravisa, tétanisée par le regard de la sœur verte. Merehan et Larelle décidèrent de se réfugier dans l'impassibilité légendaire des Aes Sedai. Un observateur aurait juré qu'elle n'était pas le moins du monde dépassée par les événements. Katsuane les lorgnait de temps en temps, mais son attention se portait surtout sur Moiraine.
« En général, les nouvelles sœurs n'enlèvent pas leur châle pour dormir, ni même pour se baigner. Mais tu te promènes ici sans châle ni bague, dans un des lieux les plus dangereux qui soient, à part la flétrissure. Pourquoi ?»
Moiraine sursauta. La courtoisie suggérait d'éviter les questions directes entre sœurs. Mais cette femme se fichait des coutumes, quand elle la serrait un peu trop en tournure.
« Les nouvelles sœurs cherchent en général un champion. »
Moiraine se demanda pourquoi Katsuane la dévisagea soudain comme si elle ne l'avait jamais vue.
« Je n'ai pas encore choisi le mien, et on dit que les hommes des terres frontalières ont toutes les qualités requises. »
S'arrêtant derrière le fauteuil de Larel, Katsuane lui posa une main sur l'épaule.
« Que peux-tu me dire de tout ça, mon enfant ?»
Dans les classes de Larel, toutes les filles l'avaient prise comme modèle, la parfaite Aes Sedai en chair et en os. Intimidée par sa froideur sereine, elle en avait également une peur bleue.
« Moiraine était studieuse, et elle assimilait vite, » dit Larel.
« Siouan, Sanche et elle comptent parmi les esprits les plus vifs que la tour ait connus. Mais la médaille a un revers, bien entendu. Voyons, comment exprimer ça ? Moiraine avait tendance à exprimer trop vivement ses opinions, et son caractère, eh bien, il était plutôt explosif, avant que nous intervenions. J'ignore d'ailleurs si nous avons totalement réussi à corriger ce défaut. Siouan et elle ont un goût immodéré pour les farces, dois-je ajouter. Mais toutes deux ont réussi du premier coup l'épreuve d'accepter. Bref, cette sœur doit prendre un peu de... bouteille. Mais elle est prometteuse.
Se plaçant derrière Merehan, Katsuane lui posa la même question qu'à Larel, avec un ajout.
Un goût immodéré pour les farces? Une fauteuse de troubles?
Merehan secoua la tête en souriant.
Non, une fille espiègle tout au plus. Ces farces ne sont jamais méchantes, mais elles ne lésinent pas sur la quantité. D'abord comme novice, puis en tant qu'acceptée, elle m'a rendu plus souvent visite dans mon bureau que trois autres initiés réunis. Sa chère Siouan exceptée, bien entendu. Les complices d'oreiller se fourrent souvent dans les ennuis ensemble, c'est sûr. Mais ces deux-là venaient toujours me voir en binôme. La dernière fois, c'était juste après avoir reçu leur châle.
Merehan se rembrunit, exactement comme ce soir-là. Les idées qui traversaient la tête des jeunes femmes n'en finiraient décidément pas de l'étonner, et peut-être, mais secrètement, de l'amuser.
Au lieu de passer la nuit à méditer, elles ont mis des souris dans le lit d'Elaïda à Roihan. Bien sûr, elles se sont fait prendre. À mon avis, c'est la première fois que de nouvelles Aes Sedai ont dû éviter de s'asseoir sur des sièges trop durs après une visite chez la maîtresse des novices.
Moiraine était parvenue à rester impassible et à ne pas serrer les poings. Mais comment s'empêcher de rougir? Ce regard amusait vaguement des approbateurs, comme si elle était encore une acceptée. Et dire qu'elle devait prendre de la bouteille, c'était probablement exact, mais... sans parler de ce déballage de détails intimes.
« Bien, je crois que vous savez sur moi tout ce que vous vouliez savoir, »
dit-elle sèchement à Katsuane. Sa relation avec Siouan n'était l'affaire de personne, car cela ne regardait qu'elles deux. Quant aux détails de leur punition, c'était... scandaleux, tout simplement.
Si vous êtes satisfaite, je vais me retirer pour faire mes bagages. Je pars demain pour Tchatchine.
Moiraine s'interdit de conclure sur un grognement peu amical. Quand elle explosait, elle ne tenait pas bien sa langue. Il fallait l'admettre. Si Merehan et Larel cherchaient le garçon, elles devaient avoir au moins une partie de la liste dans leur carnet. Avec le nom de Jurin Najima à Kanloum et celui de Dame Inès de Maine à Tchatchine. Et peut-être aussi celui d'Aven Zahira, qui vivait dans un village entre Kanloum et Tchatchine. Pour confirmer les soupçons de ses interlocutrices, il ne restait plus qu'à préciser son intention d'aller ensuite en Arafel, puis au Chienard. Katsuane eut un sourire glacial.
Tu t'en iras quand je te le dirai, gamine. Et tais-toi donc pendant que je parle. Cette carafe devrait contenir du vin aux épices. Fais donc le service.
Gamine ? Moiraine crut qu'elle allait exploser. Par la lumière, elle n'était plus une novice. Cette femme ne pouvait pas lui dicter ses faits et gestes, ni lui dire quand se taire. Pourtant, elle ne se révolta pas. Allant prendre la carafe, elle fit effectivement le service.
« Tu sembles très intéressée par cette jeune sœur, »
dit Mère Anne à Katsuone.
« Saurais-tu quelque chose que nous ignorons ?»
La réelle eut un sourire très légèrement moqueur.
« Quelqu'un aurait-il prédit qu'elle serait un jour la chair d'Amirline ?
Je ne lui vois pas un tel avenir, mais après tout, je n'ai pas le don de prédiction.
« Je peux vivre encore 30 ans, »
dit Katsuone en tendant la main vers le gobelet que lui proposait Moiraine.
« Ou seulement 3, qui peut le dire ?»
Moiraine écarquilla les yeux et renversa du vin encore chaud sur son poignet. Mereanne poussa un cri étranglé, et la réelle semblait sonner, comme si elle venait de recevoir une pierre sur la tête.
« Sois plus soigneuse avec les autres gobelets, »
dit Katsuone, comme si de rien n'était. Moiraine retourna près de la cheminée comme un automate.
« Meilyn n'est plus de la première jeunesse. Quand nous ne serons plus là, toutes les deux, Keren deviendra la sœur la plus puissante. »
La réelle sembla ne pas en croire ses oreilles. Cette femme entendait-elle fouler aux pieds toutes les coutumes ?
« Je vous choque ?»
demanda Katsuone d'un ton hypocrite qui n'aurait pas abusé un enfant de 3 ans. Elle n'attendit d'ailleurs pas de réponse.
« Même si nous ne parlons pas de nos âges, les gens s'aperçoivent que nous vivons bien plus longtemps qu'eux. Baliverne. Pour Keren, plus dure sera la chute. Se situer dans les 5 meilleurs seulement, je dis 5, mais il faudra attendre que cette gamine et la petite Suan aient réalisé tout leur potentiel. Et sur les 5, on compte 2 vieilles dames bonnes pour la retraite. Ce discours mène-t-il à quelque chose ?
Demanda Mereanne, qui n'avait pas l'air bien du tout. Les mains plaquées sur l'abdomen, la réelle était verdâtre. Sans même le regarder, les deux sœurs refusèrent le gobelet que leur proposa Moiraine. La jeune femme en garda un, même si elle doutait de pouvoir avaler quoi que ce soit. Katsuone se rembrunit, une image terrifiante.
En 1000 ans, pas une seule femme, susceptible d'être mon égale, ne s'est présentée à la tour. Et en 600 ans, Meilyn et Keren n'ont pas eu de rivales sérieuses. Il y a 1000 ans, 50 sœurs auraient eu un potentiel supérieur à celui de cette gamine. En revanche, dans 1 siècle, elle sera à la première place.
D'accord, on trouvera peut-être d'ici là une sœur plus forte, mais sûrement pas 50.
Et j'ai bien dit « peut-être ». En d'autres termes, nous déclinons.
Moiraine tendit l'oreille. Katsuone avait-elle une solution au problème ? Et dans ce cas, quel rôle voulait-elle lui faire jouer dans cette affaire ?
« Je ne comprends pas, »
dit la réelle. Visiblement requinquée, elle semblait s'en vouloir de son accès de faiblesse.
Nous savons tout ce qu'il en est. Mais quel rapport avec Moiraine ? Pensez-vous qu'elle puisse attirer à la tour des filles dotées d'un plus grand potentiel ?
La sœur grise dut se forcer pour dire les 2 derniers mots de sa phrase. À l'évidence, cette notion même la révulsait.
« Je trouverais déplorable que nous la perdions avant qu'elle sache distinguer la gauche de la droite, » répondit Katsuone. « La tour ne peut s'offrir le luxe de pâtir de la stupidité crasse d'une gamine. Regardez-la, une jolie petite noble de Kérienne. »
Du bout d'un index glissé sous son menton, elle força Moiraine à relever la tête.
« Avant que tu aies trouvé un champion, petite, un bandit désireux de te soulager de ta bourse t'aura planté une flèche dans le cœur. À moins qu'un ruffian, du genre qui s'évanouit en voyant une sœur endormie, t'assomme d'un bon coup de gourdin, te laissant reprendre connaissance dans une venelle obscure, délestée de ton argent et d'un diamant plus intime. J'imagine que tu voudrais choisir ton premier amant avec autant de soin que ton premier champion, non ?
Moiraine recula, folle d'indignation. D'abord Suan et elle, puis ses ignominies. Certaines choses ne se discutaient pas en public, bon sang. Katsuone ne se formalisa pas de cette réaction. Sirotant son vin, elle se tourna vers les 2 autres sœurs.
« Tant qu'elle n'aura pas trouvé un champion pour surveiller ses arrières, il serait judicieux de la protéger de son propre enthousiasme. Vous allez aussi à Chachin, non ? Elle voyagera avec vous, c'est décidé. » Et ne la perdez pas de vue, surtout. »
Cette fois, Moiraine réussit à parler, mais ses protestations restèrent vaines. Mereanne et la réelle émirent des objections tout aussi véhémentes. « Nouvelle ou pas, dirent-elles, une Aes Sedai n'avait pas besoin de nounou. De plus, elles avaient des affaires urgentes à traiter. Comme l'eût fait n'importe quelle sœur, elles ne précisèrent pas de quoi il s'agissait. Mais à l'évidence, elles ne souhaitaient pas avoir de la compagnie. Katsuane fit la sourde oreille, comme si elle ne doutait pas d'être obéie. Harcelant les deux femmes, elle finit par leur faire avouer qu'elles s'étaient rencontrées la veille et n'étaient pas sûres de vouloir voyager ensemble. De toute façon, elles entendaient rester 2 ou 3 jours à Kanoum, alors que Moiraine était déjà sur le départ.
« La gamine vous attendra, »
trancha Katsuane, impérieuse.
« Bon, l'affaire est entendue. Si vous avez affaire ici, je ne vous retiens plus, Larelle et Méréane. »
Larelle ne cacha pas qu'elle détestait être congédiée comme une domestique. Elle sortit en marmonnant que Moiraine n'aurait pas intérêt à lui traîner dans les jambes, ni à la ralentir sur la route de Tchatchin. Faisant bonne figure, Méréane assura qu'elle protégerait Moiraine comme une mère. Mais bien entendu, elle n'en pensait pas un mot. Quand les deux femmes furent sorties, Moiraine dévisagea Katsuane, soufflée par ce qu'elle venait de vivre. Elle n'avait jamais rien vu de tel, à part une avalanche jadis. La bonne stratégie, désormais, serait d'adopter un profil bas, jusqu'à ce qu'elle puisse échapper à Katsuane et aux 2 autres houris.
« Je ne suis d'accord avec rien de tout ça, »
dit-elle, oubliant ses bonnes résolutions.
« Et si ce que j'ai à faire à Tchatchin ne pouvait pas attendre? Si je n'avais aucune envie de rester ici 2 ou 3 jours de plus ?»
Tout bien pesé, elle avait peut-être besoin de prendre de la bouteille. Katsuane cessa de regarder la porte qui venait de se refermer sur Méréane et Larelle. Se tournant vers Moiraine, elle lui jeta un regard perçant.
« Tu portes le châle depuis 4 mois, ou quelque chose comme ça, et tu auras des affaires qui ne peuvent pas attendre ?»«
Baliverne,
tu n'as pas encore assimilé la première leçon. Recevoir le châle, c'est le signe qu'on commence vraiment à apprendre.
Veux-tu que je te révèle la deuxième ?»
La prudence prime tout le reste. Je suis bien placé pour savoir que c'est dur à comprendre quand on est jeune, qu'on maîtrise le Saïdar et qu'on pense avoir le monde à ses pieds.
Moiraine tenta de placer un mot, mais elle aurait tout aussi bien pu se trouver face à une avalanche.
Si tu vis assez longtemps pour ça, tu prendras de gros risques au cours de ton existence. Sans le savoir, tu en prends déjà beaucoup. Écoute-moi et fais ce que je te dis. Ce soir, j'irai voir si tu es dans ta chambre. Et si je ne t'y trouve pas, je te poursuivrai, je te mettrai la main dessus, et je te ferai pleurer autant que pour cette histoire de souris. Après, tu pourras t'essuyer les yeux avec le châle qui te rend invincible, à ce que tu crois. Mais c'est faux. »
Lorsque Katsuane fut sortie, Moiraine s'avisa qu'elle tenait toujours le gobelet de vin. Du coup, elle le vida d'un trait. Cette femme était terrifiante. La coutume interdisait de recourir à la violence contre une autre sœur. Mais la vieille Aes Sedai n'en avait pas eu besoin pour se montrer menaçante. Et tout ce qu'elle avait dit, elle le pensait. Les 3 serments empêchaient qu'il en fût autrement. Incroyable. Avait-elle mentionné Meilin et Keren par hasard, alors que c'étaient des enquêtrices de Tamra? En fin de compte, pouvait-elle en être une aussi? En tout cas, elle venait de couper l'herbe sous le pied à Moiraine pour au minimum 1 semaine. Si elle voyageait vraiment avec Larelle et Méréane, si Katsuane était une enquêtrice, si elle savait pour Siouan et elle, si... Rester ici, un gobelet vide dans la main, ne conduirait Moiraine à rien. Elle récupéra sa cape.